Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les parlementaires britanniques désavouent massivement leur première ministre. Ils ont rejeté hier son projet d'accord sur le Brexit. Comment, pourquoi et surtout quelle suite? Nous rejoindrons nos correspondants à Londres et au Parlement européen de Strasbourg pour connaître leur analyse.
La commission Benalla du Sénat reprend aujourd'hui. Elle a convoqué trois proches d'Emmanuel Macron. Il devrait les interroger sur le téléphone crypté et le quatrième passeport d'Alexandre Benalla. Il ne les a pas rendus en quittant l'Élysée cet été.
Emmanuel Macron encore, cette fois scruté lors du lancement du grand débat national, c'était hier. Pendant près de 7 heures, Emmanuel Macron a échangé avec des élus en Normandie et il a plutôt convaincu, vous l'entendrez.
Dans cette édition encore, nous irons à Nairobi, au Kenya. Une attaque djihadiste a fait au moins 15 morts hier dans un hôtel du centre-ville.
Et puis nous irons au Brésil où Jair Bolsonaro a assoupli l'utilisation des armes à feu dans le pays. Une mesure critiquée par les spécialistes de la violence qui considèrent qu'elle va encore augmenter. C'était jusque-là une légère brume. Voilà que le brouillard s'épaissit au-dessus du Royaume-Uni. L'incertitude politique est totale ce matin. Sortira, sortira pas de l'Union européenne. Pas comme ça en tout cas, ont dit hier les parlementaires britanniques. Ils ont rejeté en masse le projet d'accord qu'avait négocié Theresa May pendant des mois avec Bruxelles. 432 voix pour, 202 voix contre. Un frisson de joie mais aussi de surprise traverse la Chambre des communes. C'était hier à l'annonce des résultats.
The eyes to the right, 202. The nose to the left, 432.
Voilà, 432 députés ont voté contre le projet d'accord de Theresa May. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres, notre correspondant outre-Manche. La Première Ministre se réveille ce matin, Antoine, un peu groggy, un peu perdu. Theresa May a vécu un échec cuisant.
Oui, un échec historique, surtout jamais un Premier ministre n'avait été battu avec un écart aussi important, 230 voix derrière ce score. Cette défaite historique, ce que reflètent les chiffres, c'est la division, le chaos qui règne au sein du Parlement britannique. Si on prend le camp conservateur, 118 députés ont voté contre Theresa May, donc contre leur propre parti. Ça représente un tiers des élus de droite, c'est colossal. Mais ils l'ont fait pour une multitude de raisons. Certains veulent annuler le Brexit, d'autres veulent modifier le texte négocié avec Bruxelles ou demandent, à l'inverse, une rupture radicale avec l'Union européenne. Du coup, il n'y a pas de majorité au Parlement pour le plan de Theresa May, mais il n'y a aucune autre solution qui se dégage et l'inquiétude commence à monter. Le Royaume-Uni est censé sortir de l'Union européenne dans 72 jours. Plusieurs députés ont déjà commencé à écrire un texte qui empêcherait que le pays quitte le bloc européen sans aucun accord. Affolement aussi chez les chefs d'entreprise. La directrice de la CBI, la principale organisation patronale britannique, réclame un plan d'urgence pour protéger l'économie.
Un affolement à cause du flou qui pèse encore sur le Royaume-Uni. Antoine, que peut-il se passer maintenant ?
Eh bien, à partir d'aujourd'hui, tout peut arriver, y compris un nouveau référendum ou l'annulation pure et simple du Brexit. En théorie, Theresa May a jusqu'à lundi pour retourner devant le Parlement, présenter un plan B, à condition qu'elle reste Première ministre. Le chef de file de la gauche, Jeremy Corbyn, a déposé hier soir une motion de censure contre le gouvernement. Elle sera examinée cet après-midi et les députés voteront ce soir.
Merci Antoine Gignot depuis Londres ce matin pour France Culture. Alors évidemment, ce vote des communes a été suivi hier soir minute par minute au sein des institutions de l'Union européenne, à Bruxelles, à Luxembourg et à Strasbourg, au Parlement européen. Strasbourg, où l'on retrouve maintenant Quentin Dickinson. Quentin, l'ambiance y est assez morose.
Ce matin, les milieux européens sont en effet quasi pétrifiés par l'ampleur du rejet parlementaire du texte de compromis sur lequel négociateurs européens et britanniques étaient pourtant tombés d'accord à l'issue de 17 mois de pourparlers ardus. Ici, au Parlement européen, on n'en est plus à vouloir désigner des coupables, qui de toute façon sont connus, mais on redoute des lendemains forcément difficiles, comme le souligne l'eurodéputé centriste français Jean-Marie Cavada.
On ne sait pas comment les uns et les autres, la Grande-Bretagne d'une part, l'Union européenne d'autre part, vont pouvoir sortir de cette affaire, puisqu'on ne peut pas faire un seul pas maintenant avant que la Grande-Bretagne elle-même n'ait résolu ses problèmes d'autorité politique et son jugement ou son sentiment sur oui ou non. Est-ce qu'ils essayent d'améliorer l'accord ? Mais l'accord, il est fini, il est bloqué, il est tel qu'il est. Et donc on rentre dans une grande période d'incertitude. L'Union souffrira un peu du départ de la Grande-Bretagne parce qu'elle a des intérêts économiques liés. Mais ceux qui vont vraiment souffrir maintenant, c'est le peuple britannique. Parce que quand les riches maigrissent un peu, c'est naturellement les pauvres qui meurent.
Chez les élus européens, on estime généralement qu'en quelque sorte, la Chambre des communes, en torpillant l'accord, a politiquement succédé au gouvernement britannique et doit maintenant assumer la responsabilité d'avoir à trouver rapidement des solutions de remplacement.
Quentin Dickinson depuis Strasbourg. L'eurodéputé du Parti populaire européen, par ailleurs, Alain Lamassoure, estime que Theresa May n'est plus en mesure de négocier quoi que ce soit aujourd'hui. Plus généralement d'ailleurs, tous renvoient la balle dans le camp britannique et notamment Emmanuel Macron, le président français, qui juge probable la renégociation de l'accord. C'est d'ailleurs comme cela que les marchés financiers ont compris le vote des députés britanniques hier soir. La livre sterling s'est ainsi nettement reprise face à l'euro. Par ailleurs, notons qu'à l'instant, le commissaire européen aux affaires économiques et financières, Pierre Moscovici, se veut clair. La croissance économique de la zone euro, dit-il, est solide. Deux ministres français répondront aux questions des sénateurs ce mercredi. Christophe Castaner à l'intérieur, Jean-Yves Le Drian aux affaires étrangères. Auditionné également le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strauda. Tous vont devoir être clairs, précis sur l'affaire dite Benalla. Après les violences commises le 1er mai dernier, la commission au Sénat s'intéresse maintenant à la non-restitution et à l'utilisation par Alexandre Benalla de ses passeports spéciaux. Et l'on apprend ce matin à la lecture du Canard enchaîné, qu'ils sont ces passeports plus nombreux que prévu, Stéphane Robert.
Si l'on en croit le Canard enchaîné, ce ne sont pas deux, mais quatre passeports spéciaux qu'aurait oublié de rendre Alexandre Benalla. Deux d'entre eux sont des passeports dits de service, qui n'offrent pas les mêmes avantages qu'un passeport diplomatique, mais qui tout de même facilitent le passage des frontières et permettent de voyager sans visa dans certains pays. Benalla avait obtenu le premier en 2016, lorsqu'il travaillait pour l'ancien boxeur Jean-Marc Mormec, alors délégué interministériel. Le second, nous dit le Canard enchaîné, aurait été attribué en juin 2018 et n'aurait là encore pas été réclamé par le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strauda, après le licenciement de Benalla. Mais c'est essentiellement sur la non-restitution et l'utilisation des deux passeports diplomatiques que les sénateurs vont interroger Patrick Strauda. Comment se fait-il qu'il n'ait pas tout mis en œuvre pour les récupérer, permettant ainsi à l'intéressé de les utiliser à plusieurs reprises à l'automne pour se rendre en Afrique et en Israël? Le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron pourrait également être interrogé sur une autre curiosité révélée par le Canard enchaîné, le fait de ne pas avoir réclamé la restitution d'un téléphone spécial baptisé Théorème et qui permet de passer des communications ultra sécurisées. Quant aux deux ministres Jean-Yves Le Drian et Christophe Castaner, ils seront questionnés. Le premier en tant que patron du Quai d'Orsay, qui délivre et garantit la validité des passeports diplomatiques. Le second en tant que ministre de tutelle de la police aux frontières, tenu de signaler l'entrée et la sortie des personnalités détentrices de ces documents.
Loin de cette affaire-là, Emmanuel Macron a voulu montrer qu'il donnait de son temps au grand débat national. Pour le lancer hier, depuis la commune de Bourtroude dans le département de l'Eure, le chef de l'État a passé plus de 6h30 face à 650 élus normands. Il s'est par exemple dit ouvert à des aménagements sur la limitation de vitesse à 80 km/h. À propos du rétablissement de l'ISF, l'impôt sur la fortune, cela n'améliorerait pas, d'après lui, la situation d'un seul gilet jaune. Il ferme donc une fois encore la porte. 6h30 d'écoute, de discussion globalement appréciée par les maires qui étaient présents. Un peu plus tôt pourtant, Emmanuel Macron avait choqué certains en déclarant « Les gens en situation de difficulté, on va davantage les responsabiliser car il y en a qui font du bien et il y en a, je cite, qui déconnent ». Là aussi, pourtant, il est soutenu par ATD Quart Monde notamment. Sa présidente Claire Hédon y voit de la maladresse dans ses propos, mais surtout du positif.
Cette phrase sur la responsabilisation des plus pauvres, très franchement, ça ne nous aide pas à changer le regard sur les plus pauvres. Mais elle est sortie de son contexte, parce que dans cette partie-là, le président de la République dit aussi, il faut que les gens soient des acteurs, lutter contre la pauvreté, c'est un travail collectif, la solution est chez eux, donc il n'y a pas que ce mot de responsabiliser. Je pense qu'on a plutôt affaire à des personnes en situation de pauvreté qui sont tout à fait responsables, et qu'il ne faut pas les culpabiliser. En leur disant qu'il faut les responsabiliser, en fait, on leur renvoie l'idée que c'est de leur faute. Et c'est dans l'inconscient collectif. Chez un peu tout le monde, on se dit, mais qu'est-ce qu'ont raté les gens pour se retrouver dans cette situation-là? Alors qu'il faudrait raisonner très différemment, je suis convaincue que c'est la société qui est responsable de cette situation-là, et en aucun cas les personnes. Aujourd'hui, les personnes en situation de précarité, elles veulent travailler, mais on manque de travail.
Le marathon d'Emmanuel Macron hier face au maire, ce sera le thème du billet politique de Frédéric Seitz que l'on retrouvera après ce journal. Le tribunal administratif de Lyon met en application le principe de précaution. Il annule la mise sur le marché en France du Roundup Pro 360. C'est un herbicide à base de glyphosate autorisé depuis mars 2017. Cette décision prend effet immédiatement dans l'Hexagone. Le groupe Bayer qui a racheté Monsanto étudie, lui, les suites à donner à cette affaire. Bref, encore beaucoup d'espoir et finalement aucune nouvelle information. L'avocat de Mehdi Nemmouche a annoncé hier que son client ne répondrait pas aux questions qui lui seront posées lors de son procès. Procès qui a lieu en ce moment dans la capitale belge. L'auteur présumé de l'attaque du musée juif de Bruxelles risque la prison à vie pour avoir tué 4 personnes en mai 2014.
8h11 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Des personnes seraient toujours piégées ce matin dans un hôtel à Nairobi, la capitale du Kenya.
Oui, selon les secours sur place, le bilan fait pour le moment état d'au moins 15 morts. Un commando d'hommes armés a fait irruption hier après-midi dans un complexe hôtelier. Et si cette nuit une cinquantaine d'employés a pu être évacués, les assaillants seraient encore en vie. Les djihadistes ont attaqué un quartier assez prisé par les hommes d'affaires, leur boulard.
Tout l'après-midi, témoins et blessés ont été progressivement évacués, tandis que les hôpitaux de la ville faisaient des appels à des dons de sang. Okoth Obaden vient d'émerger du cordon de police. Il travaillait dans des bureaux à proximité de l'hôtel du site 2.
À 3h30, j'étais au téléphone et je travaillais comme d'habitude. Là, j'ai entendu une énorme explosion derrière moi. Et puis très vite, il y a eu une fusillade. Cela tirait de tous les côtés. Les employés couraient dans tous les sens. Les gens criaient. Tout le monde essayait de s'enfuir.
L'attentat aura duré plusieurs heures. Les échanges de tirs se sont poursuivis jusque dans la soirée. Les autorités parlent d'une attaque très coordonnée dans une zone fréquentée par de nombreux hommes d'affaires et expatriés. Pour beaucoup, cet attentat ravive donc le souvenir de l'attaque du centre commercial Westgate en 2013 qui avait fait plus de 60 morts. Geoffrey Toumbou est encore sous le choc.
C'était vraiment terrible et cela m'a rappelé ce qui s'est passé à Westgate. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit.
En 2013, le siège avait duré plus de 48 heures, soulevant de nombreuses critiques à l'égard de la préparation des forces de l'ordre. Mais cette nuit, le ministre de l'Intérieur a assuré dans un communiqué que l'ensemble des immeubles du lotissement attaqué avaient été sécurisés.
Laure Broulard depuis Nairobi au Kenya. L'attaque a été revendiquée par le groupe islamiste somalien des Shabab. Laurent Gbagbo acquitté par la Cour pénale internationale. L'ancien président ivoirien était accusé des crimes contre l'humanité pour des exactions commises pendant la crise post-électorale de 2010. Ces violences avaient fait plus de 3000 morts. Il est donc acquitté. Voilà qui fragilise un peu plus la Cour pénale internationale. Chose promise, chose due. Le président brésilien a assoupli les règles du port d'armes à feu dans le pays. Il a signé un décret en ce sens hier. Le texte revient sur une loi datant de 2003 qui limitait drastiquement le permis du port d'armes pour les citoyens. L'assouplir était une mesure phare de Jair Bolsonaro. La mesure entre donc en vigueur sous le feu des critiques tout de même, Anne Wenger.
Les Brésiliens ont désormais le droit de posséder 4 armes à la maison. Il suffit pour cela d'avoir plus de 25 ans et un casier judiciaire vierge. Selon les spécialistes de la criminalité, la mesure ne va en rien réduire le problème de la violence au Brésil, explique Rafael Alcadipani. Il est chercheur au Forum pour la sécurité brésilienne.
Je pense qu'à partir du moment où ces armes commencent à être acquises, elles vont très vite générer de nombreuses tragédies. Car les études scientifiques montrent que plus la population est armée et plus le nombre d'homicides et de suicides augmente. Ce décret est l'un des pires actes jamais accomplis au Brésil en matière de lutte contre la criminalité.
Le président a accompli là une promesse de campagne à toute vitesse. Selon une étude d'opinion, les Brésiliens étaient à 60% opposés à ce nouveau décret, mais n'ont pas eu le loisir d'en discuter, rappelle Felipe Angeli. Il est avocat pour l'ONG Institut de la Paix.
Nous avons en quelque sorte le sentiment que l'objectif du président était de court-circuiter le Congrès à travers des décrets et sans qu'on en débatte publiquement.
Le prix d'une arme au Brésil tourne autour de 800 euros. Seules les classes moyennes et privilégiées vont pouvoir en acquérir. Et toujours selon les spécialistes, ce sont par contre les plus démunis qui en seront les premières victimes.
L'après Carlos Ghosn se prépare chez Renault. Selon des sources de l'agence de presse Reuters, le gouvernement français a enclenché la procédure de remplacement. Le conseil d'administration de Renault va d'ailleurs se réunir ce dimanche. Et Carlos Ghosn, lui, est toujours en prison au Japon, accusé de malversation financière. Aujourd'hui d'ailleurs, plusieurs représentants du gouvernement français seront à Tokyo à ce propos. Quelques pluies vont arriver ce matin par la pointe bretonne, mais avançant lentement, elles ne gagneront la Normandie que ce midi, puis l'Île-de-France ce soir. En attendant, le temps s'annonce donc sec, généralement gris, avec tout de même de belles éclaircies, même sur le sud-est. Il fait ce matin 0 à Besançon, 2 degrés à Lyon, 4 à Paris, Rennes, Bordeaux. Comptez 8 à 9 degrés ce matin le long des frontières du sud.
Merci Clara Lecoq-Réal.